Vous écoutez
RMC.
7h59 sur RMC. Dans une poignée de secondes, il sera 8h et c'est l'heure du journal.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Ce drame en Espagne où le bilan s'alourdit ce matin à 39 morts dans l'accident de train survenu hier soir en Andalousie. C'est un train qui a déraillé et qui en a percuté un autre. C'est à partir d'aujourd'hui que les futurs bacheliers doivent formuler leurs vœux d'orientation sur Parcoursup. Et la période est tellement stressante que chaque année, le recours à des coachs privés est en hausse de 10 à 20%. C'est une information RMC qu'on vous révèle ce matin. Et puis on va retourner dans ce journal au Maroc au lendemain de la victoire du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations, mais alors dans la confusion la plus totale.
Le bilan de l'accident de train s'alourdit à 39 morts ce matin en Espagne.
Oui, dans ce qui est la pire catastrophe ferroviaire depuis le drame, souvenez-vous, de Saint-Jacques-de-Compostelle en 2013. Hein, Pierre Chaperon, vous êtes en Espagne en direct ce matin pour RMC. C'est donc un train parti de Malaga qui a déraillé dans la soirée et qui en a percuté un autre pour des raisons encore inconnues.
Oui, un accident extrêmement étrange. Ce sont les mots du ministre des Transports en Espagne, Oscar Puente, qui, lors d'une conférence de presse dans la nuit, a indiqué que toute explication à ce drame ne serait à ce stade que pure spéculation. Est-ce un problème de matériel ou bien de chemin de fer? Beaucoup d'interrogations du côté des experts également. Le train qui faisait la liaison entre Malaga et Madrid et dont les derniers wagons ont déraillé sur une ligne droite et percuté un convoi qui venait dans le sens inverse avait moins de 4 ans d'ancienneté. La ligne de chemin de fer avait été rénové en mai dernier. Les survivants de ce drame parlent d'un gros coup de frein, une sorte de tremblement de terre et puis le noir total, une scène de chaos digne des films d'horreur, un cauchemar, des passagers qui tentent de sortir des deux trains engagés dans cette collision. Une enquête a été ouverte et elle devrait durer plusieurs semaines alors que les premiers rescapés sont arrivés dans la nuit par autobus à Madrid.
Et le bilan est encore provisoire hein, puisqu'il y a, selon le dernier bilan, 24 blessés dans un état grave donc ce matin en Andalousie, là où est survenu ce drame ferroviaire hier soir. Je vous signale qu'il y aura une réunion des dirigeants européens dans la semaine, sans doute jeudi. On l'a appris hier soir pour coordonner la riposte face aux menaces de surtaxes douanières brandies durant le week-end par Donald Trump qui répète, hein, vous savez, sa volonté de s'emparer du Groenland et en veut aux pays dont la France ayant envoyé des contingents militaires en fin de semaine dernière. C'est en Conseil des ministres aujourd'hui que le gouvernement va décider s'il fait passer le budget de l'État, soit par 49.3 finalement, soit par ordonnance, qui serait une grande première. Thomas Becker du service politique à RMC en direct ce matin. Le gouvernement va prendre sa décision. Il a pris le soin en attendant de faire une ultime concession aux socialistes pour s'éviter une censure.
Oui, tout à fait. Le Premier ministre a fini par donner le point aux socialistes sur la surtaxe des grandes entreprises. Elle devait être exceptionnelle. Les 300 plus grands groupes français contribueront finalement en 2026 à hauteur de 8 milliards d'euros, comme en 2025. Une façon de financer les concessions sur le volet dépenses, plusieurs milliards d'euros pour préserver la prime d'activité, annuler le gel du barème de l'impôt sur le revenu ou encore généraliser les repas à 1 euro pour les étudiants. Des demandes, là encore, du PS. En abandonnant un vote sur le budget, Sébastien Lecornu devait s'assurer la non-censure des socialistes. Réponse de Boris Vallaud, patron des députés PS, il y a quelques minutes, compte tenu des avancées, nous pouvons envisager la non-censure. Sébastien Lecornu doit maintenant décider avant le Conseil des ministres cet après-midi s'il utilise les ordonnances ou le 49.3. Un indice, les socialistes ne veulent pas entendre parler de la première option. Avec le feu vert du PS, donc, le Premier ministre devrait revenir sur son engagement et utiliser le 49.3 pour enfin adopter le budget 2026.
Réponse donc dans la journée. Et alors, c'est une période de stress qui commence ce matin pour de nombreux parents. Leurs enfants aussi, puisqu'ils doivent à partir d'aujourd'hui formuler leurs vœux sur Parcoursup. Chacun connaît cette plateforme d'accès à l'enseignement supérieur. Il y a jusqu'au 12 mars pour le faire. Mais c'est une telle période de stress que des familles font carrément appel à des coachs privés pour les aider dans leur orientation. Louis Salé, vous avez enquêté pour RMC en direct ce matin. Vous nous révélez ce chiffre des inscriptions donc en hausse chaque année de 10 à 20%.
Oui, grâce à une publicité bien ciblée, hein, les offres pullulent en ce moment sur les réseaux sociaux, dans les salons de l'orientation. Ces coachs proposent des entretiens souvent en visio aux alentours de 150 euros. Dans les formules les plus chères, hein, près de 800 euros, le coach prend le temps de connaître l'élève avec des tests pour cerner ses envies, analyser son niveau scolaire ferroviaire, construire de A à Z son projet d'orientation. L'objectif, définir une liste de vœux qui lui correspondent sur Parcoursup et pour lesquels il a des chances d'être pris. L'orientation est un sujet de stress pour les lycéens qui se sentent souvent démunis. Les profs ne sont pas toujours renseignés sur les filières, faute de formation sur le sujet. Dans les lycées, il y a peu de psychologues scolaires chargés de l'orientation, un conseiller seulement pour plus de 1000 élèves, ce que déplore la sociologue Anne-Claudine Oller.
Si l'institution se dit qu'il faut accompagner individuellement chaque élève de première et terminale, qu'elle crée un corps de conseillers d'orientation suffisamment conséquent pour pouvoir accompagner tous les élèves de terminale et de première 8 heures par an.
Et plusieurs rapports de la Cour des comptes du Sénat pointent ce manque d'accompagnement, une faille dans laquelle s'engouffrent de plus en plus de prestataires privés. Les sénateurs dénoncent ce système qui, je cite, « aggrave les inégalités sociales entre élèves ».
C'était le choix de la rédaction signée Louise Salé ce matin sur RMC. Pas d'école et pas de transport scolaire ce matin dans le département de l'Aude. Un des 5 à être en vigilance orange, hein, Géraldine vient de le dire, pour les inondations. Il y pleut énormément, on n'avait pas vu ça depuis 2022, depuis ce week-end dans ce département. À tel point que dans la soirée, le préfet de l'Aude a carrément ordonné l'évacuation de 2 quartiers de Narbonne où on redoute la crue sur place d'un cours d'eau. Tiens, Baptiste habite un de ces quartiers.
À 20h30 hier, nous avons reçu un message de la préfecture concernant de potentielles crues. Et donc, si on avait un étage dans le quartier, de se réfugier à l'étage, mais sinon d'aller au centre de secours, au centre d'accueil. C'est compliqué, il n'y a pas de transport en commun. L'agglomération ne met pas à disposition les bus. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui passe avec une voiture du Citybus pour dire aux habitants de ne pas attendre aux abribus. Je viens travailler ici tous les matins et je ne l'ai jamais vu comme ça. C'est vraiment impressionnant.
Et alors, dans les 5 départements vigilance orange, le risque d'avalanche est de 4 sur une échelle de 5 dans les montagnes de Corse. Pareil pour les Pyrénées-Orientales et dans les possible pour le massif du Kera. C'est aujourd'hui que les joueurs du Sénégal sont attendus à Dakar pour fêter leur victoire hier soir à la Coupe d'Afrique des Nations, la 2e de leur histoire, remportée 1-0 en prolongation contre le Maroc, le pays hôte. Le Maroc avait raté un pénalty en toute fin de match. Aurélien Tiercin, vous êtes en direct de Rabat pour RMC, vous jouez cette finale. C'est ce pénalty qui a mis le feu aux poudres, on peut le dire.
Oui. Absolument, parce que c'est une décision arbitrale contestée, en tout cas vivement par les Sénégalais, juste après s'être vu refuser un but lui aussi sur une action litigieuse par l'arbitre congolais du match. Et les joueurs sénégalais, sur décision du sélectionneur, sont rentrés au vestiaire pendant 10-15 minutes. Une situation absolument jamais vue, je n'ai jamais vu ça dans une compétition de ce niveau, et ça a enflammé le stade dans le mauvais sens du terme. Les journalistes commençaient à se taper en tribune de presse entre Sénégalais et Marocains, les supporters sénégalais ont arraché des sièges, sont descendus sur la pelouse, le match interrompu évidemment. Il a fallu 4-5 rangées de personnel de sécurité pour contenir tout le monde dans le chaos le plus total. On ne savait plus si le match allait reprendre. Finalement, le légendaire Sadio Mané, le capitaine du Sénégal, a fini par convaincre ses coéquipiers de revenir sur la pelouse, et il a bien fait. Il a prié avant le pénalty de Brahim Diaz, pénalty manqué, but en prolongation de Pape Gueye, un missile dans la lucarne. Le match est donc encore plus entré dans la légende. Heureusement, pas de débordement gravissime à l'extérieur du stade ni à l'intérieur, mais la tension a continué dans l'après-match, puisqu'en conférence de presse, Pape Thiaw, le sélectionneur champion d'Afrique, n'a même pas pu parler sous pression de journalistes marocains entrés en masse dans la salle pour contester l'attitude de Pape Thiaw. Finalement, donc, pas de conférence de presse. Du côté de Walid Regragui, le coach marocain, lui a parlé, et il a parlé notamment d'une triste image donnée du football africain.
Voilà, Aurélien Tiercin en direct pour cette fin de la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous signale quand même qu'il y a eu quelques tensions aussi à Paris entre forces de l'ordre et supporters sénégalais dans le secteur des Champs-Élysées où les rassemblements de supporters étaient pourtant interdits.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08 et vous êtes bien sur RMC. C'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Et ce matin, c'est avec Pierre Rondeau. Bonjour Pierre. Pierre, les ventes de deux roues, moto et scooter en chute libre. Et c'est vrai d'ailleurs pour le neuf comme pour l'occasion. Qu'est-ce qui se passe?
Alors oui, chute libre, c'est le moins que l'on puisse dire. En 2025, les ventes ont baissé de 14% par rapport à 2024. En 2024, elles chutaient de 9%. En 2023, la baisse était de 2%. C'est simple, depuis la fin du Covid, les Français ont délaissé les deux roues motorisées. Ils n'ont plus la cote. Qu'il s'agisse du marché du neuf comme du marché de l'occasion.
Comment ça s'explique?
Alors premièrement, et ça vous paraîtra évident, il y a une problématique de pouvoir d'achat. On achète de moins en moins parce qu'on a de moins en moins les les moyens. Les salaires, selon l'INSEE, n'ont pas augmenté suffisamment et les ménages ont de moins en moins de possibilités d'achat. Sans compter l'augmentation du prix des assurances de 10% pour les nouveaux conducteurs, ceux qui précisément achètent de nouveaux véhicules, contre 3% pour les conducteurs expérimentés. Rajoutez à ça le stationnement payant appliqué dans les grandes villes comme Paris, Marseille ou Bordeaux et le contrôle technique devenu obligatoire pour les deux roues. Vous voilà avec un secteur en très grande difficulté.
Il n'y a pas de motif d'espoir pour les fabricants, des perspectives pour l'avenir ?
Alors on peut effectivement voir le verre à moitié plein, on peut considérer que c'est pas forcément une chute, mais un virage. Les usagers de la route et les motards évoluent, changent de braquet. Par exemple, l'électrique baisse, mais dans des proportions plus faibles, de seulement 5%. Et on observe même une augmentation des ventes pour un secteur très spécifique, les petites cylindrées électriques, les scooters électriques d'occasion. On change de mode de mobilité, on change de type de véhicule. Regardez par exemple la présence de plus en plus importante de trottinettes ou vélos électriques, voire de voitures sans permis dans les villes. En 5 ans, les ventes des voitures sans permis ont été multipliées par 2. Les jeunes et les adolescents qui jusqu'ici achetaient des scooters et des petites motos privilégient dorénavant ce type de véhicule, plus sûr et sans contrainte, et cela rassure les parents. On assiste donc à une modification du marché, pas vraiment à une disparition, et le marché des deux roues devra donc être capable de se réinventer pour passer cette transition.
Merci Pierre Rondeau, et d'ailleurs vous n'hésitez pas, si vous avez fait ce choix d'ailleurs, de renoncer aux deux roues, appelez-nous au 3216, il est 8h10 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Dans un instant, Arnaud Demanche, comme chaque matin, vient nous rejoindre. À 8h30, l'invité du face-à-face, c'est le jour J, c'est la ministre du budget. Amélie de Montchalin, à quelques heures, donc peut-être du dénouement sur le budget, elle nous le dira. Ça se passe sur RMC et BFM TV à 8h30. Juste après, il y aura aussi Nicolas Canteloup, comme chaque matin, on a rendez-vous avec ses imitations à 8h50 pour Face à Canteloup. Il est 8h11 sur RMC, restez bien avec nous, on se retrouve dans un instant.
RMC, Apolline Matin. C'est tous les jours de manche.
Tous les 8h13, Arnaud Demanche qui nous rejoint. Salut Arnaud.
Bonjour les amis. Allez, pour démarrer la journée, un sourire, Apolline. Car on va parler du député Rassemblement National, Mathias Renault. On s'est foutu de sa gueule partout, mais pas encore ici. Et c'était pas très juste. Il était temps de réparer. Parce qu'il a voulu supprimer les subventions du festival Les Transmusicales de Rennes. Il croyait que c'était un festival de promotion des transgenres dans la musique. Donc ça aurait été quoi ? Un festival avec que Raïm Redcar, anciennement Christine and the Queens, qui s'appellera Frigidaire Tournebeuf l'année prochaine. On ne sait pas. Mais bon, Mathias Renault, il faut faire attention. Transavia n'est pas une compagnie aérienne avec des avions pilotés par des drag queens.
Salut les loulous, ici Lolita Banana, votre pilote assisté du commandant Zouzou Barbichou. La température en cabine est très chaude. Le décollage est immédiat, même si c'est pas facile de piloter avec des talons et des ongles de 20 cm. Attachez vos ceintures, c'est parti pour toute la nage.
Et le pauvre Mathias Renault.
Fais-moi descendre!
Cuisse de poulet ou queue de lotte?
Je veux sortir d'ici!
Donc, les pays transfrontaliers, c'est pareil. Il n'y a pas de transgenre à toutes nos frontières, voilà. À part en Allemagne, avec des femmes de 95 kilos de muscles et une moustache. Et si tu prends un transsibérien, c'est pas Vladimir Poutine sous œstrogène qui te fait l'amour. Sa vie doit être un enfer. Le pauvre Mathias Renault, s'il prend tout au pied de la lettre, comme ça, très premier degré, il a pris des billets pour le festival des vieilles charrues.
Mais il y a plein de musiciens! C'est nul, où sont les agriculteurs? Moi, je voulais voir des vieilles charrues, le printemps de Bourges. Que des ploucs, pas un Bourges. Il y avait les négresses vertes, une arnaque totale. C'est des hommes et ils sont même pas verts. Et est-ce que le président a pas mieux à faire que du camembert? Président.
C'est un délire.
Et à France Travail, il n'y a même pas de travail.
Les villes juives, pourquoi ils ont une ville? C'est du séparatisme. Bref, c'est toujours rassurant de voir qu'on expédie à l'Assemblée nationale l'élite intellectuelle de la nation qui bosse ses sujets avant de déposer des amendements. Courage, Mathias. À demain, Mathias.
Ouais, on sent qu'on est sur un Un très bon filon. La France a envoyé des soldats au Groenland pour un exercice avec plusieurs pays européens, suscitant la fureur de Donald Trump.
Oui, c'est fou. Hein. Les États-Unis et le Danemark se disputent le Groenland alors qu'il y a 6 mois, tout le monde s'en foutait. Ça me rappelle un peu quand le gouvernement et les insoumis se sont mis à se battre pour avoir le PS.
Ah ouais.
Voilà. Le Groenland, c'est le Olivier Faure du monde occidental. Le Groenland ne veut pas rejoindre les États-Unis. Mais alors, à leur décharge, Trump les a mal dragués quand même. C'est un mauvais dragueur, Trump, on va pas se mentir. Je dis pas ça pour critiquer sa femme. Elle est très bien, sa femme, même si la mienne est mieux. Et qu'en plus, elle est moins chère. Mais pour conquérir le Groenland, au lieu d'aller les baratiner en leur disant « J'adore votre culture, vos paysages, votre singularité », il leur a juste dit « J'ai besoin de votre pays pour m'en servir comme bouclier antimissile ». Alors vraiment, c'est comme draguer une meuf en lui disant « J'ai besoin de toi pour me soulager 2 fois par semaine
oh ».
Et on fera des bébés pour qu'ils peinent aux retraites. C'est pas glamour. Donc ils vont envahir le Groenland, je sais pas pourquoi. Ils vont en faire une annexe d'Hollywood spécialisée dans les téléfilms de Noël. Hollywood. Et du coup, les Français ont envoyé des troupes au Groenland. Alors, j'aime pas dire du mal de mon pays, mais est-ce que les Français sont au courant qu'au Groenland, il y a de la neige? Ils vont faire demi-tour. Jamais un Français va aller bosser alors qu'il y a de la neige. Il y a une semaine, on a tout annulé pour 3 cm. Alors, je pense que les Groenlandais peuvent s'inscrire à Wall Street English. Do you speak English? Yes, Wall Street English. Wall Street English.
Le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique des Nations.
Oui, les Lions de la Teranga ont battu les Lions de l'Atlas. C'est classe hein, comme surnom d'équipe, les deux, parce que chez nous, c'est juste les Bleus, parce que le t-shirt est bleu. Ça fait moins chic. Les Allemands, eux, ils se sont encore moins pris la tête. Le surnom de l'équipe nationale, c'est l'équipe nationale.
Ah, c'est bien.
La Nationalmannschaft. Il y a aussi la Terre de Feu, ça c'est l'Azerbaïdjan, ou la Lune aux Étoiles, ça c'est joli, c'est la Turquie.
Ah, c'est beau ça.
Ouais, alors ça fait un peu position du Kama Sutra, la Lune aux Étoiles, mais c'est la Turquie. Et c'est d'ailleurs l'occasion du jeu du lundi. Est-ce le surnom d'une équipe de foot?
Ah oui,
position sexuelle. Le bateau pirate.
Position sexuelle.
Non, c'est la Grèce. Le bateau ivre.
Position sexuelle.
L'éléphant national.
Non, c'est pas une position sexuelle.
C'est la Guinée. Le bouclier du roi.
Position sexuelle.
Non, c'est le Swaziland. C'est l'équipe du Swaziland. La porte du paradis.
Oh bah ça, position sexuelle.
Ouais. Le Yémen heureux.
Oh bah non.
Non, ça c'est une équipe quand même. Quand même. La reine aux champignons. Alors ça, il y avait
une pizza.
C'est une pizza. Bonne réponse. Le lotus inversé.
Une position.
C'est la sérénissime.
Une pizza.
Non, c'est Malte. C'est l'équipe de Malte. L'aigle fringant.
C'est une équipe.
Okay. Et enfin, le guerrier de fer. Une équipe.
D'accord.
Et l'hélico Béliard.
C'est une équipe. Je suis pas tout seul.
Allez, bravo Mathieu. À demain.
C'était Arnaud Demange.
Voilà, on sait plus ce que c'est au final.
Dans un instant, mon invité sur RMC et BFM TV, ce sera la budget, Amélie de Montchalin, puisque c'est le jour J, effectivement, pour le budget. On s'oriente vraisemblablement vers un 49-3 après d'ultimes cadeaux qui ont été faits, au parti socialiste. Les messages, Mathieu, d'un certain nombre d'auditeurs qui réagissent sur le Groenland et le bras de fer qui s'installe clairement avec Donald Trump.
Question qu'on a posée très tôt ce matin, faut-il aller au clash, faut-il aller au bras de fer avec Donald Trump? Et vous répondez vraisemblablement oui, il faut être ferme, nous dit Eric. Il faut être ferme avec Trump. Les États-Unis ont besoin de l'Europe plus que l'Europe a besoin d'elle. L'Europe, c'est 20% du PIB des États-Unis. Trump n'aura pas le choix que de faire marche arrière. Un pays puissant fait ce qu'il veut et un pays faible fait ce qu'il peut, nous dit Julien. Et l'Union européenne est composée de pays faibles qui, au lieu de se coaliser en un grand espace, une grande puissance économique et militaire, vivent pays par pays en jouant chacun leurs propres intérêts. Et c'est ce qui nous rend faibles. La seule issue, c'est l'Europe fédérale, nous dit Julien. Il appelle à plus d'Europe ce matin sur le WhatsApp RMC 0612 424 424. David nous dit, après s'être approprié le Groenland, si Trump décidait d'annexer la Guyane, les Antilles ou autres, on devrait le laisser faire aussi. Voilà ce que demande David ce matin sur le WhatsApp RMC. Et vous avez été nombreux à réagir, à la fois inquiets et profondément préoccupés du sort de l'Europe dans ce débat sur le Groenland voulu par les États-Unis.
Et j'interroge dans un instant donc Amélie de Montchalin, la ministre du budget, non seulement sur le budget, mais aussi sur ce point et les conséquences que ça pourrait avoir sur l'économie française, ces 10% de droits de douane supplémentaires dont menace Donald Trump. Il est 8h21, on se retrouve dans un instant sur RMC et BFM TV.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Il est 8h28 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Amélie de Montchalin.
Bonjour.
Merci d'être mon invitée ce matin. Vous êtes la ministre du budget et j'ai envie de dire c'est le moment, le jour J, jour décisif pour le budget puisqu'il y aura un conseil des ministres tout à l'heure et la décision du moyen, on a bien compris qu'il n'y aurait pas de vote, mais si c'est 49-3 ou ordonnance et ultime tractation, on a encore vu hier un dernier peut-être cadeau que vous avez fait au Parti Socialiste, est-ce d'ailleurs le dernier, on verra sur la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises. Je voudrais d'abord quand même vous poser une question parce qu'on l'a appris à l'instant. Donald Trump qui continue dans ses menaces, qui a encore écrit au gouvernement danois, laissant entendre, je cite, qu'il n'était pas tenu de penser en termes de paix. Il a hier menacé de 10% de hausse de droits de douane pour 8 pays européens, dont la France. En fait, on est en train de vous voir construire un budget pour une économie dont on sent qu'à tout moment, dans cette instabilité, elle pourrait basculer.
Avant l'économie, c'est le monde qui peut basculer. Nous avons construit depuis 1945 un cadre mondial qui a eu quelques, évidemment, entailles, mais un monde où le premier principe s'appelle la souveraineté des nations. Il n'y a pas eu... Et d'ailleurs, c'était bien la première fois entre la Russie et l'Ukraine. Mais il n'y avait plus d'invasion. Les pays arrêtaient de passer la frontière avec leurs chars et leurs armées pour dire « ça, ça m'appartient alors que c'est chez toi ». Et donc, le sujet là qui se joue, il y a évidemment des enjeux économiques et je vais y revenir. Mais le premier sujet, c'est le Groenland est un territoire danois, du Danemark. Tout comme la Nouvelle-Calédonie est un territoire français, tout comme, vous voyez, nos Outre-mer sont des territoires français, certes éloignés de nos capitales géographiques, mais ce sont des territoires qui ont une appartenance, une souveraineté. Et le message que fait passer l'Europe de manière unanime, et ça c'est très important, de manière unanime, même si certains pays, vous savez, la France et d'autres ont évidemment répondu aux appels du Danemark pour que nous ayons à leur côté une plus grande surveillance de la sécurité du Groenland vis-à-vis de potentielles attaques extérieures, russes, chinoises et autres, qui inquiètent beaucoup Donald Trump et qui nous inquiètent d'ailleurs beaucoup aussi.
Non mais là on répond, mais est-ce qu'on a les moyens et qu'on
avons
y compris
d'abord
économique
un sujet de souveraineté. Ensuite, économiquement, l'Europe n'est pas faible. Vous savez que pendant des mois, vous vous souvenez, on avait nos histoires de droits de douane avant le fameux accord qui d'ailleurs à certains égards, est un peu suspendu. On va pas faire un accord douanier alors qu'on nous rajoute des droits de douane. Et donc, on a beaucoup d'outils. Des outils, d'ailleurs, parfois, qui avaient été pensés pour plutôt nous protéger contre la Chine, contre des pressions extérieures.
Vous pensez, j'imagine, à l'instrument qu'on appelle anti-coercition, qui pourrait être activé. Il faut l'activer.
Moi, mon métier, vous voyez, actuellement, ma mission, là, c'est de m'occuper du budget français. Et je pense qu'on a besoin d'autant plus d'un budget quand
mais
on est
j'ai
dans
envie
ce
de
monde.
Dire, il sera caduque, ce budget, en quelque sorte, si on se retrouve avec, effectivement, tout d'un coup, 10% de droits de douane supplémentaires. Ça change beaucoup de choses.
Ça change beaucoup de choses pour nous, pour les Allemands, pour toute l'Europe. Et donc, vous voyez bien que le sujet, c'est que ça ne doit pas arriver. Nous devons nous mettre dans une position où, par la résistance, par notre force, par notre crédibilité, nous empêchons cette espèce de guerre commerciale de s'approfondir. Mais voyez pourquoi il faut un budget. Et ça fait peut-être la transition.
Non, attendez. Avant la
c'est
transition,
dans notre budget, il y a un élément clé, ça s'appelle le budget des armées. La France, dans ce monde-là, alors que nous sommes vulnérables et attaqués en tant qu'Européens, comme jamais, par l'Ukraine et par cette situation.
On va revenir sur ce budget.
Nous avons besoin
sur ce budget
et
sur le budget de la défense. Mais, Amélie de Montchalin, je vous repose la question. Un, est-ce qu'il faut prendre au sérieux la menace de Donald Trump?
Nous la prenons très au sérieux.
Vous la prenez très au sérieux.
C'est pour ça que le président de la République et le Premier ministre et l'ensemble du système français à la fois économique, militaire, sécuritaire. Un, on se met aux côtés du Danemark. Deux, s'il y a des menaces russes et chinoises, eh bien, on va les surveiller au Groenland, aux côtés des Danois.
Et si on activait ce que vous appelez...
Et trois, s'il y a un sujet économique, on se défend.
On se défend en activant, s'il le faut, cet instrument donc anti-coercition.
Il y a une palette d'outils. Les Européens doivent décider ensemble. Il y a hier une réunion qui a abouti à l'unanimité. C'est très important. Il y a un Conseil européen extraordinaire cette semaine. Il y aura des échanges. Vous savez qu'un certain nombre de dirigeants sont à Davos dans les prochains jours. Donc, la France, l'Europe, l'Allemagne, et d'ailleurs France et Allemagne sur ce sujet, et j'insiste, alors qu'on a été divisés sur d'autres, nous sommes unis. Et ça, c'est très important parce que c'est aussi notre puissance.
Mais ça aura des conséquences économiques parce que non seulement les hausses de douane de tarifs douaniers auraient des conséquences, mais si nous-mêmes nous activons effectivement cet instrument anti-coercition, on peut limiter les importations, rehausser nous-mêmes les tarifs douaniers, ou encore interdire les marchés publics à certaines entreprises des États-Unis.
Tout ça peut se faire.
On peut le faire.
L'année dernière,
Il ne faut pas hésiter à le faire.
Non mais moi, pas d'hésitation. L'année dernière, si on rembobine le fil, vous savez qu'à un moment donné, on a dû réviser notre prévision de croissance en France parce qu'on a dit, oulala, les droits de douane arrivent, ça va nous coûter sur la croissance. On était passé de 0,9% de croissance à 0,7% de croissance. En fait, on finit 2025 à 0,9. Mais pourquoi pas? Parce qu'on a des, heureusement, notre continent, notre pays a des ressources. Nous ne sommes pas juste, vous voyez, tétanisés parce que, heureusement, nous avons des perspectives de croissance ailleurs, nous avons des perspectives internes, c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'un budget, pour redonner de la capacité à tous les acteurs économiques de se projeter en France, en Europe et dans le monde, et ne pas être dépendants. Vous savez pourquoi on a peut-être un peu rabâché depuis des années, depuis le fameux discours de la Sorbonne ? Qu'on croyait à la souveraineté, à l'autonomie stratégique européenne. Parce que nous devons arrêter d'être dépendants. Dépendants de la croissance américaine, dépendants des décisions extérieures, dépendants au fond de tout ce qui se passe dans le reste du monde, et nous de regarder les trains passer. Nous devons décider pour nous-mêmes, à commencer la France, pour elle-même, d'où les questions de budget.
Amélie Montchalin, ministre du Budget, est-ce que, enfin, d'ici ce soir, ce sera le début de la fin? C'est-à-dire, est-ce qu'enfin, on saura qu'on va avoir un budget, et comment? Ce sera sans doute le 49-3.
Bon, première chose. Si on rembobine il y a une semaine, vous vous souvenez où nous étions?
Oui.
Le débat a été saboté par des acteurs politiques qui, un peu par cynisme, par opportunisme, parfois par incompétence, ont voté toutes sortes de choses très bizarres dans le budget qui l'ont rendu invotable. Deuxième chose, il y a une semaine, honnêtement, c'était le chaos politique. Personne n'était d'accord sur rien, ni sur le quoi, ni sur le comment, ni sur rien. Et troisième élément la semaine dernière, c'est que il y avait, au fond, un sentiment que nous n'y arriverions jamais. Aujourd'hui, vous voyez, on a des débats sur ce qu'il y a dans ce budget qui ressemble, je pense, à un point d'équilibre. Pourquoi c'est un équilibre? Et je veux vraiment vous le dire. Quelques jours, avec le Premier ministre, vous savez, tout le monde nous dit, on fait des tractations de couloirs, ça se passe loin des yeux. Bon, au fond, on s'est dit deux choses et on l'a dit à tous les acteurs politiques. Puisque tout le monde semble n'être d'accord sur rien, nous, gouvernement, on vous propose la chose suivante. Un, nous allons préférer la stabilité au saut dans l'inconnu. Donc on va garder ce qu'on connaît. La fiscalité des ménages, on ne change rien. La fiscalité des TPE-PME, on ne change rien. La fiscalité des grandes entreprises, en 2026, elles paieront. Et j'en suis désolé parce que je ne souhaitais pas ça. Mais c'est le choix de stabilité. Elles paieront en 2026, comme en 2025, sauf pour les entreprises de taille intermédiaire et industrielle.
Sauf qu'en 2025, vous leur aviez dit que c'était temporaire.
Et je suis venue vous le dire. Et est-ce que j'en suis satisfaite? Non. Mais à un moment donné, le choix qui a été fait politique, c'est la stabilité. Pas de hausse d'impôts pour les ménages, pas de hausse de charges pour les entreprises, pas de changement fiscal, parce qu'en fait...
Et pas de baisse pour les grandes entreprises.
C'est vrai. Mais honnêtement, c'était soit le grand n'importe quoi, soit de se dire, bon, au fond, on va garder ce qu'on connaît, et quand on garde ce qu'on connaît, c'est pas l'idéal, j'avoue, mais à un moment donné, il faut avancer. Deuxième chose qu'on a dit aux partis politiques, pour les Français, il y a des urgences. Trois à minima, je vais en rajouter une quatrième. Un, le travail doit payer. C'est pour ça que cette réforme de la prime d'activité, on la soutient. Elle coûte cher, mais elle est décisive. Quand vous travaillez un peu plus que le SMIC, vous devez gagner plus à la fin du mois. Les aides sociales ne peuvent pas baisser. Deuxième chose, deuxième urgence, c'est la jeunesse. Nous avons fait un budget de sécurité sociale qui protège nos aînés, qui protège nos retraités, qui protège la santé.
Qui faisait le choix des plus âgés.
Ce budget de l'État et des collectivités, il doit penser à l'avenir. Et donc, on doit protéger la jeunesse, les étudiants, les boursiers, les universités, la recherche. Et on assume. Parce que là aussi, c'est l'avenir. Troisième priorité, c'est le logement. Toutes les familles de France. On parle beaucoup de natalité, de démographie. Mais évidemment que c'est difficile d'avoir un enfant de plus quand vous êtes déjà tout serré dans votre appartement et que vous ne pouvez pas déménager, que vous ne trouvez pas de bien à louer, qu'il n'y a rien à vendre nulle part et que les prix sont trop chers. Ces trois priorités-là, on a dit là-dessus, avec tous les partis politiques, les LR, les partis socialistes, les indépendants, tout le monde, ceux qui ont voulu venir à Bercy. Donc il manquait les écologistes et les communistes et je le regrette. Mais ça, on s'est dit là-dessus, on doit pouvoir faire
vous
du plus
et
mieux.
Vous n'aviez pas invité LFI et
non, parce
RN
que, quand on sabote les débats.
Vous
partiez
du parti que c'était des saboteurs, comme
oui,
vous dites.
Oui, mais voyez, quand le RN décide de baisser d'un coup 5 milliards d'euros pour les petites communes de France en disant que c'était formidable pour l'équité du pays, moi je suis contre, et donc je l'ai dit, et donc on a avancé. Et donc ce budget, c'est ça. Et comment on le finance?
Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce que depuis effectivement 48 heures, les uns et les autres sont au rendez-vous et vous disent « Ok, banco, on y va ».
Au fond, ce qui joue, là, vous avez parlé 49-3 ordonnances, et je vais vous le dire avec beaucoup de clarté, mais surtout de gravité. Le 49-3, c'est un chemin assez périlleux, puisque s'il ne se passe pas bien, à la fin, vous n'avez ni budget, mais vous n'avez même plus de gouvernement pour reproposer un budget. Et donc, vous n'avez rien. Et donc, vous avez dans le monde que vous venez de décrire, le vide. Et moi, je ne peux pas laisser mon pays s'engager, vous voyez, dans une aventure en disant bon, on y va. Donc, ce qui se joue, sinon, c'est les ordonnances. Les ordonnances, c'est un autre système. C'est un système qui vous dit au moins vous avez un budget. Peut-être vous n'avez plus de gouvernement, mais au moins les armées ont leur budget. Au moins, ce budget tel qu'il serait appliqué ne plairait à personne. Il devrait être modifié, peut-être déjà par un budget rectificatif, mais au moins vous auriez une base pour que, oui, par rapport à Donald Trump et au reste du monde, on ait une voix crédible. Moi, je vais vous le dire, aujourd'hui, on n'est pas en train de sauver nos postes. Avec le Premier ministre, le sujet, c'est pas de savoir s'il y aura un gouvernement ou pas, c'est de savoir s'il y aura un budget ou pas. Donc, ce qu'on veut, c'est sauver le budget. Et donc là, ce qui se joue dans les ultimes tractations, les ultimes échanges, les ultimes coups de fil, c'est au fond, est-ce qu'on a assez de garanties pour prendre plutôt le chemin du fameux 49-3? Si on n'a pas assez de garanties, bah, on prendra le chemin. Vous savez, au fond, moi, si dans quelques jours, je dois quitter Bercy, si je dois dire, voilà, je suis censuré avec le reste du gouvernement, les gens ne veulent plus nous voir, ils veulent autre chose. Moi, j'ai un engagement avec moi-même et que je veux dire devant les Français. Si je dois quitter mon poste, je veux que la France ait un budget. Sinon, c'est la honte et le remords pour moi politique majeur. Parce que ça voudrait dire qu'on a fait tout ça et qu'à la fin, c'est le vide.
Pardonnez-moi, mais je n'ai pas compris.
S'il y a des ordonnances, mais qu'on est censuré, au moins, il y aura un budget.
Donc, votre alors que si préférence...
Non, mais s'il y a un 49-3 et qu'on est censuré, il n'y aura même pas de budget.
Mais ça veut dire, Amélie Montchalin, que votre préférence irait à l'ordonnance parce que ça donnerait une stabilité plus grande.
Ce que je dis, c'est que je comprends que les forces politiques préféraient que nous n'ayons pas recours à l'ordonnance. J'ai bien compris ça. Mais je dis que pour que nous prenions le chemin du 49-3, il nous faut des garanties réelles.
Vous estimez que les engagements qu'ils prennent ne sont pas suffisants. En quand ils cas, disent on va vers le mieux, notamment le Parti Socialiste,
que je vous
on va vers les bons, oui. Là, on commence à prendre la bonne direction.
Que je vous
ça
dis,
ne suffit pas. Vous voulez qu'ils disent on ne censurera pas.
Ce que je vous dis, c'est que comme on gère pas un pays, comme on gère une aventure, pour que le Premier ministre dise on va faire le 49-3, il faut que dans les dernières heures, on soit bien sûr qu'à la fin, on aura bien et un budget et un gouvernement. Mais à nouveau, je vous le dis, moi, j'ai passé mon
week-end. Non, mais ça veut dire, Amine Montchalin, que dans les heures qui viennent, puisque c'est aujourd'hui que ça se joue, Sébastien Lecornu a dit qu'il annoncerait effectivement ordonnance au 49-3 d'ici ce soir. Ça veut dire que vous lancez en quelque sorte un appel ce matin, en disant aux différents partis qui veulent bien vous suivre, il faut s'engager clairement, nous dire que vous ne censurerez pas, sinon on va pas au 49-3. On ne prend pas de risque.
Et
on ne
prendra pas de risque. Et je le dis pourquoi? Parce que le sujet, c'est pas nos postes. C'est d'avoir un budget. Moi, j'ai passé mon week-end, vous voyez, avec des patrons de grandes entreprises, de petites entreprises au téléphone.
Ouais, vous avez pas dû passer un très bon week-end parce qu'ils sont globalement pas très contents.
Et je leur ai dit, voilà, moi, je serai plus peut-être votre interlocutrice dans quelques jours. Mais je m'engage devant vous que si nous devons partir, nous ne laissons pas le vide.
Oui, c'est enfin, qu'il y a un budget. Si c'est un 49-3 avec engagement de non-sens de la part du Parti Socialiste, de la part de LR, vous avez des craintes, même du côté de LR?
Mais vous voyez, tous les sujets sont encore ouverts. On a des discussions avec le Sénat. Sénat, c'est la chambre de la stabilité. Ils ont été extrêmement aidants, les sénateurs, l'année dernière, en 2025, pour qu'on ait un budget. Mais il faut pareil que, au fond, on ne se laisse pas aller à des coups d'éclat politiques sur certains sujets qui amèneraient potentiellement à de l'instabilité.
Qu'est-ce qu'il pourrait faire encore, le Sénat? C'est-à-dire que j'ai l'impression presque que, de votre côté, bon, vous espérez, vous imaginez que dans les heures qui viennent, du côté du PS comme de LR, on vous donne les signaux suffisants pour que vous puissiez oser, comme vous dites, le 49-3. J'essaie de traduire ce que vous êtes en train de me dire.
Vous traduisez très bien.
Je crois que c'est
et
bien ce qu'on a compris.
Que, oui, oser dans la politique, voilà. Il vaut mieux le faire en ayant un petit parachute, parce que sinon, c'est votre pays que vous emmenez dans le vide.
Donc,
et
ça,
nous ne prendrons pas ce risque et on préférera, je vous le dis, perdre notre poste.
Vous ne ferez pas 49-3 le risqué. Vous ne ferez le 49-3 qu'en étant
exactement
sûr, effectivement, qu'on vous soutient. Ok. Mais ensuite, vous évoquez le Sénat. Pardonnez-moi, mais qu'est-ce que le Sénat peut faire? Est-ce que le Sénat pourrait encore bloquer les choses?
Vous voyez, on essaie de trouver un budget pour la nation. On essaie de trouver un budget pour le pays. On essaie de le faire en disant à tous les partis de gouvernement qui ne veulent pas bloquer et qui ne sont pas obsédés par organiser des nouvelles élections, comme le sont la France Insoumise et la Rassemblement National, quel que soit le sujet, il faut une dissolution, une destitution des élections. Ben, on leur dit, si c'est le budget de la nation, si c'est le budget du pays, ben, ça serait bien quand même qu'on se soit mis d'accord sur au moins à quoi ils ressemblent.
Vous voulez les appeler, eux aussi, à et une donc, forme de ce budget?
En tout cas, une forme d'union nationale pour les Français, notamment sur le budget des collectivités, où on a encore beaucoup de travail à faire dans la journée, pour savoir comment on en fait, au fond, un point de consensus.
Mais est-ce que ça veut dire, Amine Montchalin, que même s'il y a un 49-3 sans risque, j'allais dire, il reste un risque du côté de... Est-ce que le Sénat peut encore faire capoter le budget
de l'État?
C'est
pas une question de risque, c'est une question d'unité, de stabilité, de concorde. Est-ce que ce budget, au fond, on arrive à se dire que, oui, il assure la stabilité, peut-être qu'il ne change pas autant de choses que certains auraient voulu, il résout des urgences des Français, mais il ne reste pas un élément, vous voyez, d'opposition, de tension. Et donc, sur le budget des collectivités, bah, le Sénat, par exemple, pourrait arriver avec nous tous à se dire que ce qui est là n'est pas forcément ce qui est l'idéal, Mais c'est quand même mieux de se mettre d'accord sur quelque chose que de rester dans la confrontation.
Moi, il y a quand même un truc que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment vous arrivez à être en dessous des 5% de déficit. C'est-à-dire que pour moi, j'ai fait tous les calculs, ils sont pas bons.
J'attendais votre question. Ça marche pas. Il y a deux choses que je veux vraiment vous garantir. D'abord, il y aura moins de prélèvements obligatoires en 2026 qu'en 2019. Ça, c'est très important parce que 2019, c'est la dernière année où on avait un déficit sous 3%. Et c'est la dernière année où, d'ailleurs, on était avant les grandes crises du Covid, de l'Ukraine, de l'inflation. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est oui, il y a plein d'économies dans ce budget. Et j'en voulais même en faire davantage.
Mais vous nous redites ce matin qu'il se sera en dessous des 5%?
D'abord, on sera à 5%. On avait dit 5% maximum.
Vous serez pas en dessous, vous serez à 5.
On avait dit 5 maximum, on est à 5. Là, dans les tableaux, dans les équilibres. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent d'économie. Ils viennent souvent vous en parler à votre micro. Moi, je les vois ensuite, pas devant votre micro, je les vois dans l'hémicycle, à l'Assemblée, au Sénat. Ils les votent beaucoup moins, les économistes. Ça enthousiasme beaucoup plus les économistes quand on en parle que quand on doit les voter. Deuxième chose, c'est on en a fait beaucoup en 2025. On a fait le plus grand effort de réduction de dépenses de fonctionnement de l'État, ce qui a permis aux collectivités et aux dépenses sociales de continuer à augmenter. C'est quand même la réalité. On va continuer. Vous savez, j'ai fait plein d'annonces pendant des mois sur les agences, les opérateurs. Le Premier ministre a aussi fait des agences.
On va continuer à réduire de ce point de
vue-là ? Agences, opérateurs, il y a 70 mesures que les ministres doivent appliquer. Nous tous, on a tous les ministres, on a une feuille de route. Il y a 70 mesures de suppression, de rationalisation, de fusion. On réduit les dépenses de communication. On réduit les dépenses de commande publique. Donc oui, je peux vous dire, vous me connaissez, ce sujet d'économie en 2025. On avait dit, on voulait 5,4% de déficit. On a fait combien ? 5,4.
Deux questions encore.
Pas parce que je suis
tout
seul, mais parce qu'on y a mis tous les parlementaires, tous les syndicats, toutes les associations patronales, toutes les collectivités, tous les trimestres à Bercy. Et on a dit, vous savez quoi, réduire le déficit, ça peut pas être que sur les épaules de la ministre du budget.
Deux questions importantes.
C'est un sujet
encore,
national.
L'une,
et on va continuer.
Sur le consentement à l'impôt, quand votre prédécesseur à Bercy, le patron de Bercy, monsieur Lombard, dit qu'il y a des milliers de contribuables parmi les plus aisés qui ne payent aucun impôt sur le revenu. Vous dites, il ment, mais c'est pas possible, ça peut pas suffire de dire ça. Non. C'est pas possible.
Qu'il y ait des gens dans notre pays...
Il a été ministre du budget.
Non, mais qu'il y ait des gens dans notre pays qui payent moins que ce qu'ils devraient, ça fait un an, là aussi, que je vous bassine...
Non, mais il dit pas qu'ils payent pas assez. Ils disent des milliers de contribuables parmi les plus aisés qui ne payent aucun impôt sur le revenu.
Il n'y a pas. Ça n'existe. C'est pas vrai qu'il y a des dizaines de milliers. Ce qui est vrai...
Non, pardon. Pourquoi il dit ça?
Il s'est d'ailleurs lui-même un peu précisé et corrigé ensuite.
Il était quand même ministre de l'économie. Il dit n'importe quoi.
Il a dit, et je le dis, ce qui est vrai. D'ailleurs, Éric Coquerel, le président de la commission des finances, insoumis. Il est venu
à
Bercy.
Sur BFM TV, dans un instant, il viendra répondre justement.
Il est venu à Bercy. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu ce qu'on connaît tous et ce sur quoi on agit. C'est, il y a effectivement des milliers de personnes qui aujourd'hui payent moins d'impôts que ce qu'elles devraient parce que nous avons des phénomènes d'optimisation, de suroptimisation fiscale, ce qui a amené le gouvernement, je vous le rappelle, à proposer une taxe sur les holdings. C'est l'article 3 du budget et cette taxe sur les holdings va nous permettre notamment, tel que nous aboutissons...
Donc ça ne sera plus qu'en 2026.
...de sortir tous les biens personnels de ces holdings parce que soit vous avez la fiscalité des entreprises pour des projets d'entreprise, soit vous avez des biens personnels qui ont une fiscalité... personnel. Et on va essayer d'arrêter cette espèce de confusion où vous bénéficiez de la fiscalité des entreprises pour vous constituer un patrimoine personnel. Ça amène à ce qu'effectivement, il y ait des dizaines, petites dizaines de milliers de personnes qui payent moins que ce qu'elles devraient. Et donc, nous, on lutte contre la fraude, on lutte contre la suroptimisation, mais je le dis vraiment très solennellement, s'il y avait des dizaines de milliers de personnes qui payaient zéro impôt sur le revenu alors qu'ils sont fortunés, un, ça fait longtemps qu'on l'aurait su, deux, ça fait longtemps qu'on l'aurait combattu, donc il y a la suroptimisation, et maintenant la combat.
Merci.
Et vous avez dans le budget beaucoup de mesures, parce que c'est aussi un enjeu, vous l'avez dit, de consentement à l'impôt, de justice, d'efficacité, et de respect des Français avec les uns et les autres, et donc sur ce sujet, ça fait un enjeu de travail, et il y a des résultats qui seront, je l'espère, dans le budget, qui sera,
Amélie de Montchalin, ministre du budget. Merci d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h47 sur AMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Et comme tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes Publics, était mon invitée ce matin. Bruno Le Maire, vous vouliez réagir à cette interview?
Malherbe.
Oui.
Que de temps perdu, j'ai envie de dire, mais des semaines de négociations, hein, des psychodrames à répétition, être obligé de faire carpette devant les socialistes, faut le dire. Hein, et tout ça pourquoi? Pourquoi? Pour avoir un budget à la con, hein, qui ressemble à rien, et qui en plus, quand on est certain de dépasser certainement, hein, mais ça, ça dès octobre, on pouvait le faire, moi de mon temps. Souvenez-vous, Madame de Valère, je vous torchais une bouse de budget en 2-2. Hein, on disait 49-3, pan, c'était plié en 2 jours. Hein, il y avait des d'accord, il y avait des dépenses dans tous les sens, il y avait des fuites de partout, on est d'accord. Hein, mais au moins, mes budgets, hein, je les rendais en temps et en heure. Hein, mais ça bloquait pas le pays pendant des mois. Hein, on était pragmatique et lucide, on savait que ce budget, c'était de la dope, mais au moins, on passait à autre chose.
Voilà, merci.
Même vous, je les ai bien patients ce matin.
Oui, très. Ce matin, tiens, Marc-Olivier Fogiel est avec nous pour les titres de l'actualité.
Bonjour, et bonjour, Pauline.
Salut.
Et bonjour, Pauline. Salut à toute l'équipe. Tout le monde est là. Aurel Gage, Elise Enchant, Thibaut Texter et les Soufis Profonds. Bonsoir à tous. L'actualité, c'est encore et toujours Donald Trump qui a été filmé faisant un doigt d'honneur, à Pauline, un doigt d'honneur à un ouvrier dans une usine. Un ouvrier qu'il avait interpellé au sujet de l'affaire Epstein. Eh bien, c'est bien la première fois que dans cette affaire Epstein, il est question d'un majeur. Ça y est, Thibaut Texter vient de l'avoir. Et puis, élection de Mister France, c'est Maxence Brouillet, ancien tennisman professionnel qui a été élu donc plus bel homme de France. Il avait été suspendu, précisons-le, pour corruption pendant 7 ans pour avoir perdu des matchs contre de l'argent. En même temps, faut le comprendre, c'est un joueur de tennis français. Hein. Quand t'es déjà sûr de perdre, autant en profiter pour prendre un petit billet. Hein. Et puis sport toujours, l'ancien champion olympique de natation Yannick Agnel sera jugé pour viol sur mineur. C'est donc très logiquement qu'on devrait bientôt le retrouver aux commandes d'une émission de CNews. Et puis la région Île-de-France a dévoilé son nouveau jingle sonore. Le nouveau jingle sonore, la région Île-de-France pour les transports. On l'écoute tout de suite en exclusivité sur l'antenne d'RMC, une fois n'est pas coutume. Oui.
C'est magnifique.
Oh, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bonjour. Jean Castex, peut-être m'avez-vous reconnu.
Ah oui.
Non, pardon, j'étais dans l'émotion d'entendre cette symphonie. Oui, je tenais à rassurer les usagers de la RATP et du Transilien. Nous avons fait très attention afin de ne pas perturber les usagers. Le jingle change, oui. Mais attention, j'exigeais que les annonces restent les mêmes.
Ah oui, c'est vraiment important pour vous. Hein.
Voilà, ne soyez pas inquiète, Mme Malher, si vous prenez. Si vous prenez un transport en commun, rassurez-vous, vous aurez toujours droit, bien sûr, à votre petite annonce habituelle, vous savez, avec que l'on entend au micro à moitié inaudible, avec un micro qui crépite, avec une excuse toujours à la noix, toujours incompréhensible d'une rupture de caténaire causée par la chute d'un sanglier sur les voies en raison d'un incident voyageur causé par une feuille morte qui voulait mettre fin à ses jours. Voilà, vous le voyez, nous tenons à préserver la qualité de l'expérience client et à conserver intact le plaisir des transports en commun.
Merci Jean Castex. Emmanuel Macron nous a rejoint. Bonjour Monsieur le Président.
Oui, attendez, je...
Oui, c'est
oui, donc comme j'ai un souci à mon œil,
je vous avez vu surtout, voilà, oui, vous avez un souci à votre œil, vous avez avec des lunettes de Tom Cruise. Hein.
Oui, j'avais mes lunettes, vous les avez mal levées, j'ai pu sortir. C'était une bonne excuse, j'avais très envie depuis 8 ans déjà de sortir mes lunettes de Tom Cruise.
Je me suis dit, on voyait, hein, parce que vous vouliez répondre aussi à peut-être à Donald Trump.
Oui, alors non, parce que j'ai encore une réplique à faire juste avant. Oui, j'avais une rougeur. Oui, parce que les lunettes de... Vous savez que j'ai... Non, parce que... Non, je sens que vous ironisez sur Tom Cruise. Mais vous savez que j'ai un porte-avions aussi.
Oui.
Et dessus, j'ai quoi? J'ai les mêmes avions de chasse que Tom Cruise.
Oui,
vous voyez? Et si Donald nous attaque, on est prêt à se défendre face à M. Trump. Donc, même si, vu l'état de nos armées, c'est vrai que c'est mission impossible. Comme Tom Cruise.
Alors, en réponse à Donald Trump...
Non, là, on parle des avions. Toutou, c'est plutôt les trains.
En réponse à Donald Trump, vous avez proposé d'utiliser l'instrument anti-coercition, qui, en gros, limite les importations et gèle les investissements. Pour ça, il faut que ça passe avec les autres Européens qu'ils soient d'accord. Vous pensez que ça va passer?
Je n'ai pas compris votre question qui était un peu confuse.
Je crois que vous avez perdu nos auditeurs. Encore plus qu'avec Mme de Montchalin, vous avez perdu tout le monde. Donc alors,
voilà, ce que vous vouliez me dire, c'est que c'était comme avec le Mercosur.
Oui, oui, tout à fait. Alors, ce que je fais avec le Mercosur, c'est comme avec le Mercosur, je propose des trucs qui ne passent pas, mais au moins, j'ai fait le job, j'ai proposé. Vous savez, c'est pas évident de gouverner sans aucun pouvoir. En France, vous le savez, je n'ai plus de pouvoir sur l'Assemblée. À l'international, j'ai pas de pouvoir sur Trump. Comment vous dire? C'est un petit peu comme jouer au tennis contre Nadal, mais sans raquette.
Ah oui.
Ou vous faire une émission de radio, mais sans micro. Hein, très peu de chances, en tout cas pour Nadal, de gagner le match.
Oui, ça marche moins bien, c'est sûr. Merci, monsieur le président. Alain Marchal nous rejoint pour nous présenter le sommaire des grandes gueules. Quel est le programme, Alain?
Eh bien, bonjour Apolline. Aujourd'hui, dans les GG, nous reviendrons bien sûr sur les tensions autour du Groenland avec notre spécialiste Bernard Jansin, qui est frigoriste à Rungis et qui en plus a regardé L'âge de glace 2 avec son petit-fils. Il viendra donc témoigner à juste titre dans les GG. Puis, quelles conséquences après que Donald Trump ait annoncé une hausse des droits de douane? Nous en parlerons avec Serge, qui est bien placé pour en parler puisqu'il travaille au musée d'Orsay et qu'il connaît donc très bien le douanier Rousseau. Et puis enfin, nous reviendrons sur le procès de Marine Le Pen avec Ricardo González. Ricardo González qui connaît bien le sujet des emplois fictifs puisque justement cela fait 8 ans déjà qu'il est professeur de Zumba au Sénat.
Ah oui.
Voilà, comme chaque matin, les meilleurs experts sont dans les GG.
Merci Nicolas. On retrouve donc tous les jours à 8h50 et à tout moment en podcast. Dans un instant, GG, quel est le programme, Alain? Alain Levray.
Ah, on a un face-à-face qu'on attend avec impatience dans les GG puisque Charles Consigny avait dit du Haut Commissariat au Plan qu'il fallait le supprimer parce que ça ne servait à rien. Le Haut Commissaire au Plan Clément Beaune sera face à Charles Consigny dans les grandes gueules. Dans un instant, les GG, c'est de 9h à midi. À tout de suite.